Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à la naissance des Jeux Olympiques modernes, et bien sûr à leur évolution, de l'amateurisme à la professionnalisation grandissante du sport. C'est lors de l'Assemblée de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, qui s'est déroulée en juin 1892, que Pierre de Coubertin lance un appel pour faire renaître les Jeux Olympiques. Le 23 juin 1894, le Comité international olympique, CIO, est créé. Il indique que les Jeux ne pourront accueillir que des sportifs amateurs attirés par la beauté du sport, comme l'auraient été, aux yeux de Coubertin, les athlètes grecs de l'Antiquité. En réalité, les athlètes participés aux Jeux antiques recevaient des rémunérations importantes dès les temps les plus reculés. Les premiers Jeux organisés en hommage aux dieux et durant lesquels les cités devaient observer une trêve dans leurs conflits eurent lieu en 776 avant Jésus-Christ. Ils furent organisés par la cité d'Olympe. Les Jeux perdureront jusqu'à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Les épreuves commençaient par une course de chevaux de chars appartenant à de riches propriétaires rémunérant les meilleurs cavaliers et conducteurs de chars. Les autres épreuves étaient qualifiées de gymniques, signifiant que les athlètes y participaient complètement nus et comprenaient le lancer du disque et du javelot, le saut en longueur, la course à pied, course de fond d'environ 4600 mètres et course d'un stade de 192 mètres et la lutte. Le vainqueur était récompensé par la cité qu'il représentait et obtenait une rente. La référence à l'amateurisme prônée par Coubertin relève donc d'une autre logique. Les tenants de l'amateurisme se retrouvaient parmi la haute société de Londres et de Paris, désireuse de ne pas partager les mêmes activités que le peuple. En Grande-Bretagne, le professionnalisme avait pourtant fait son apparition dans le football à Sheffield en 1876. Mais la Rugby Football Association l'avait repoussé en 1895, et c'est pour cela que fut créée la Rugby League, autorisant le professionnalisme à l'origine du rugby à 13. En 1882, la naissance du Racing Club de France symbolise l'émergence de cet élitisme sportif amateur. Les Jeux Olympiques restent marqués par le respect de l'amateurisme, de ceux d'Athènes en 1896 aux années 1980. En 1896, les premiers Jeux modernes à Athènes regroupent 241 athlètes, dont aucune femme, de 14 nations, pour 43 épreuves dans 9 sports. Pour les Grecs, la victoire de leur compatriote Spyridon Louis dans le marathon en est l'un des moments forts de la compétition. Côté français, Alexandre Tuféry, 1876-1958, est deuxième au triple saut. On doit donc à Pierre de Coubertin la renaissance des Jeux modernes. Élevé dans une famille aristocratique et royaliste, il renonce à Saint-Cyr et part à 20 ans pour l'Angleterre. Le 20 mars 1892, il est l'arbitre de la première finale du championnat de France de rugby. Racing 4, Stade Français 3. En novembre, il lance à la Sorbonne le rétablissement des Jeux Olympiques. Il dit « Le monde ne savait plus qu'il y eut des Grecs. » Il n'est pas dupe non plus. Il dit « il n'y a jamais eu d'amateurisme absolu. » Il s'installe en Suisse avec deux enfants handicapés, transfère le siège du CIO à Lausanne, se voit refuser un engagement sur le front en 1915. En 1934, il est ruiné. Des amis lui viennent discrètement en aide. 3 ans plus tard, le 2 septembre, à l'âge de 74 ans, il s'écroule lors d'une promenade dans l'allée d'un jardin de Genève. La vie au service du sport et de la fraternité humaine. 1900, ce sont les Jeux de Paris, dans le cadre de l'exposition universelle. Le commissaire général de l'exposition, Alfred Picard, propose d'y organiser des concours d'exercice physique. L'idée que la défaite de la guerre franco-allemande est liée à la mauvaise condition physique des Français est dans toutes les têtes. Michel Théateau, 1878-1923, un luxembourgeois qui court pour la France, est champion olympique du marathon en 2h59min45s. Et en rugby, les Français de France Reichel sont champions olympiques en battant les Anglais et les Allemands. En 1904, les Jeux ont lieu à Saint-Louis, en Louisiane, aux États-Unis, et les athlètes américains y sont très majoritaires. Le seul Français engagé aux JO est Albert Corret, 1878-1926, qui finira deuxième au marathon. En 1908, Londres accueille les Jeux et la marque du marathon est arrêtée définitivement à 42 km 195 m. L'Italien Dorando Pietri, pourtant vainqueur, sera disqualifié. Le rugbyman français André Géot, 1889-1943, est deuxième au 100 hauteur. Il sera troisième du 4x4. En 1920. En 1912, aux Jeux olympiques de Stockholm, l'Américain Jim Thorpe, médaille d'or au pentathlon et au décathlon, sera contraint en 1913 de restituer ses médailles pour cause de professionnalisme, une première. Ce n'est qu'en 1983, 30 ans après la mort de Thorpe, que le CIO lui réattribue ses médailles à titre posthume. Le Finlandais Hannes Kolehmainen réalise un des grands exploits de ces Jeux 1912, en remportant trois titres olympiques, le 5000 mètres devant le Français Jean Bouin, le 10000 mètres et le cross. Jean Bouin est la première star de l'athlétisme français, vice-champion olympique du 5000 mètres aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912, recordman du monde de l'heure, 19 km en 1913, et multi-champion de France de cross. Jean Bouin était déjà finaliste sur le 1500 mètres de Londres en 1908. Jean Bouin est tué et meurt au champ d'honneur en 1914 à l'âge de 26 ans lors de la première bataille de la Marne. Il aurait demandé à être dans les unités combattantes et non à l'arrière pour s'occuper de la formation physique des soldats. Il donnera son nom à d'innombrables avenues, rues, stades, piscines et autres enceintes sportives. Après la Première Guerre mondiale, les Jeux reprennent en 1920, en Belgique, à Anvers. Un hommage à la souffrance et à la bravoure des Belges pendant la guerre. En ce temps-là, émerge le Finlandais volant du nom de Paavo Nurmi, 1m74, 65 kg, qui deviendra une légende vivante. 5 médailles d'or aux Jeux de Paris 1924. Il a été détenteur de 28 records du monde entre 1920 et 1932. Une seule ombre au tableau, sa défaite aux 5000 des Jeux de Anvers 1920, battu par un Français. Joseph Guillemot. Joseph Guillemot, 1899-1975, est champion olympique du 5000 mètres et deuxième du 10000 mètres. Suzanne Langlen remporte le simple et le double mixte en tennis. En 1924, ce sont les Jeux de Paris. On retiendra la défaite des rugbymen français emmenés par Adolphe Jauregui face aux Américains, 17-3. Le rugby, considéré comme un sport d'hiver, disparaît du programme olympique. Les tennismans français, les quatre mousquetaires, vainqueurs des Coupes Davis, Brugnon, Cochet, Lacoste, Brotra, s'illustrent devant 36 000 spectateurs. 1928, ce sont les Jeux olympiques d'Amsterdam, avec l'apparition des femmes, et Bouguera El Ouafi, 1898-1959, qui devient champion olympique du marathon. Jules Ladoumègue, 1906-1973, et deuxième du 1500 mètres. En 1932, un retour des Jeux olympiques aux États-Unis, à Los Angeles. Puis 1936, c'est Berlin. Puis c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les choses liées à l'amateurisme changent réellement en 1980, avec l'élection de Juan Antonio Saramanche. En 1981, il fait voter la suppression de la référence à l'amateurisme dans la charte olympique. Les Jeux sont ouverts aux professionnels. Dès 1984, à Los Angeles, les footballeurs professionnels peuvent participer au tournoi olympique à condition de n'avoir pris part à aucune Coupe du Monde. Il en est de même pour les tennismen professionnels qui participent aux Jeux Olympiques à partir de 1988. En 1980, le CIO, pour la première fois, confie l'organisation des Jeux Olympiques à une ville du camp communiste, en l'occurrence Moscou. Les États-Unis, entraînant une cinquantaine de pays, excepté les pays européens dont la France, boycottent les Jeux en raison de l'intervention soviétique communiste en Afghanistan en 1979. En 1984, Moscou boycotte à son tour les Jeux de Los Angeles avec la RDA, Cuba et une quinzaine de pays, à l'exception de la Roumanie, de la Yougoslavie et de la Chine. La désignation de Pékin en 2008 est une grande victoire pour le régime communiste, tant sur le plan intérieur que sur la scène internationale. Le sport comme enjeu géopolitique. Tout serait donc politique dans le sport ? Souvenons-nous du violent match de waterpolo Hongrie-URSS en 1956 à Melbourne, suite à l'écrasement par les soviétiques de l'insurrection hongroise de 1956, la gymnaste roumaine Nadia Comăneci obtenant la note parfaite à Montréal, 1976, instrumentalisée par le régime de Ceausescu en vue de concurrencer les soviétiques. Le sport, c'est la guerre sans les fusils, pour reprendre l'expression de George Orwell. Et pourtant, pour le Comité olympique international, le mot d'ordre est bien « le sport ne fait pas de politique ». Dans la tradition de Pierre de Coubertin, créateur de CIO en 1894, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. L'historien et journaliste Jean Lacouture, déjà en 1972, reporter aux Jeux pour Le Monde, en faisait le constat. Les membres du CIO, dont le président Avery Brundage, sont les représentants d'une société opulente qui ont fait des Jeux de 1972 ceux de l'argent. Avec l'arrivée de l'Espagnol Juan Antonio Saramanch, un ami de Franco, qui restera à la tête du CIO jusqu'en 2001, on entre dans le professionnalisme, avec un énorme budget gonflé par les droits télé et publicitaires. Les JO, c'est quand même la piste aux étoiles. On y retient aussi la piste aux symboles. Jesse Owens, complice avec un concurrent allemand au saut en longueur de Berlin 1936, l'Algérienne Hassiba Boulmerka, défiant les islamistes de son pays en lui offrant en short sa première médaille d'or en 1992, l'Éthiopienne Dérartu Toulou et la Sud-Africaine Blanche Elena Mayer partageant un tour d'honneur sur la même piste de Barcelone quelques mois après l'apartheid, les deux Corées défilant ensemble derrière un même drapeau en 2000 à Sydney, les images fortes d'un olympisme vecteur de paix ne manque pas.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.